Maintenant, venons-en à la question plus précise qui nous occupe aujourd'hui, celle de partager sa foi chrétienne, partager l'évangile dans un contexte professionnel. Donc là, on est plus précis. Et là, on se trouve face à une question qui est débattue parmi les chrétiens. Certains chrétiens hésitent à parler de leur foi, considérant que le contexte professionnel ne le permet pas. Certains ne le font pas parce qu'ils ont peur d'être étiquetés, voire d'être mis à l'écart, de subir éventuellement des moqueries, ou même d'en subir un préjudice du point de vue de son avancement dans l'entreprise. C'est possible. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas très à l'aise avec cette idée de partager l'évangile, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Et c'est le cas certainement de certains parmi nous aujourd'hui. Preuve en est la question posée par l'un d'entre vous. Vous savez, je mets ces petits papiers blancs qui sont sous la boîte en bois là-bas, et puis dans la série sur le travail, je vous ai invité à écrire vos questions. Donc j'ai récolté tout un tas de questions, et parmi celles-ci, j'avais comment parler concrètement de sa foi à ses collègues sans prendre trop de risques. Vous voyez, ça laisse entendre que je sens que c'est risqué, donc j'ai quelques peurs par rapport à ça. Comment parler de sa voix sans prendre trop de risques? Vous voyez, une frilosité finalement. Certains chrétiens aimeraient davantage parler de la foi chrétienne, mais ils se sentent démunis. Ils se sentent pas qualifiés pour dialoguer avec leurs collègues et notamment répondre à des questions qui sont difficiles. Peut-être que ça vous est arrivé de vous retrouver un peu bousculé dans une discussion avec un collègue et ça touchait au sujet de la foi ou à des convictions éthiques de comment vivre. Et du coup, ça vous a un peu refroidi de réaborder le sujet de la spiritualité. C'est possible. Il y a des chrétiens encore qui vivent assez mal cet encouragement transparaît aussi dans la Bible de partager leur foi. Peut-être certains le vivent comme une sorte d'injonction. Voilà. Il faut que tu partages ta foi. C'est quelque chose de difficile à vivre. Peut-être que vous avez notamment une personnalité qui est plus réservée, plus timide. Donc vous, ça vous met sous pression, vous voyez. Et vous en nourrissez, du coup, une sorte de culpabilité. Parce que vous dites, ouais, mais moi, je n'évangélise pas, donc je suis un mauvais chrétien, etc. Puis d'autres vous ajouteront peut-être une culpabilité en disant, mais comment peux-tu rester bouche close alors que des personnes se perdent loin de Dieu? Donc là, vous êtes encore plus sous la culpabilité. Alors, à contrario, il y a des chrétiens qui sont très à l'aise avec ça, très à l'aise, qui n'hésitent pas à parler ouvertement de leur foi au travail, certains dans un style très direct, sautant sur la moindre occasion pour citer la Bible dans une discussion, vous voyez, comme ce chrétien qui s'approche en camouflage avec sa Bible sous le coude, et bim, hop, on cite un petit verset biblique. Quitte à s'attirer les sarcasmes des collègues, hop, tac, on a cité la Bible. Seigneur, la parole qui est semée, elle porte du fruit, etc. Si c'est votre cas, vous assumez totalement cette démarche-là comme une facette tout à fait normale de la vie chrétienne. La Bible ne dit-elle pas que tous ceux qui veulent vivre attachés à Jésus-Christ seront persécutés? Donc, d'une manière ou d'une autre, alors attention avec les termes persécutés, parce qu'il y a persécution et persécution. Okay. Quand on est en Afghanistan, ça coûte pas pareil de sortir sa Bible que quand on est en France. Voilà. Donc, avec les mots persécutés, des fois, faut garder la mesure. Mais en tout cas, voilà, comme je disais, ça peut être du registre de la moquerie, d'être mis à l'écart un peu des autres. C'est humain, on a besoin d'être intégré dans un groupe. Il y a rien de plus terrible pour un être humain que de se retrouver dans la solitude. On a besoin d'être intégré à un groupe, d'être apprécié, d'être inclus. C'est un sentiment qui est terrible, la solitude. Donc, il y a ça aussi qui joue. Mais pour certains, voilà, il y a pas de souci à parler ouvertement de l'évangile. Disons que parfois les limites, c'est que le message ne soit pas vraiment entendu, parce que ça peut tomber comme un cheveu sur la soupe. Les gens n'ont pas compris ce que vous avez dit, parce que les gens ne sont pas familiers avec le message biblique. Vous allez citer un message biblique, les gens n'ont pas compris le tiers des termes qui sont là-dedans, et du coup, finalement, on n'arrive pas à ce qu'on aimerait en tant que chrétien. Il faudrait que les gens comprennent finalement de quoi il est question. Des fois, les gens se sentent agressés dès qu'on arrive directement sur le sujet spirituel. Il y a beaucoup de malentendus possibles. d'autres le reçoivent comme une quelque chose de moralisateur et de moralisateur, et du coup c'est difficile de le recevoir et de vraiment se poser et d'y réfléchir. Donc du coup il y a un risque d'être inaudible aussi. Je m'arrête ici pour cette présentation succincte, on va dire, du vécu des chrétiens sur la question. Donc vous voyez la palette très large. Et jusqu'ici vous vous dites peut-être, ok, bon, alors c'est quoi la bonne démarche? C'est quoi la bonne démarche? Je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je crois qu'il y a différentes clés pour nous conduire dans comment agir personnellement dans notre quotidien, chacun pour notre part, et avec l'aide de Dieu. Troisièmement, d'abord, de forger notre cadre de réflexion et d'action dans ce que dit la Bible. Donc un cadre, vous voyez, tout à l'heure, j'ai cité ce passage de la Bible qui nous parle de notre identité, si nous sommes chrétiens, comme ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous voyez, donc ça nous donne un cadre. Ah, en fait, je représente Jésus, en fait. Donc là, vous voyez, ça fait partie de mon cadre de réflexion quand je discute de ce sujet. Le deuxième, c'est de chercher à comprendre, à chercher à appréhender le monde d'aujourd'hui, le monde qui nous entoure, et notamment d'être sensible au rapport à la spiritualité qu'entretiennent les gens qui nous entourent. Comment vivent-ils ce sujet de la spiritualité? Donc on y viendra. Et puis le dernier, c'est vraiment de demander à Dieu sa direction dans la prière. Vraiment demander à Dieu la sagesse pour savoir ce qui, dans notre situation particulière, convient. Alors, le message que je vais poursuivre ici, je vous invite à examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, comme dit la Bible, en toute occasion, c'est la démarche à garder. Quand j'ai débuté cette série sur le travail, j'ai délibérément choisi de placer cette question du partage de la foi dans le contexte professionnel un peu plus tard, un peu plus loin dans notre série. On abordait une série sur le travail, et pour ne pas simplifier les choses et dire « Ah bah le travail, on est au travail pour parler de Jésus !» Premier truc. Donc on s'est intéressé un peu aux différentes facettes, aux différents apports de la Bible sur le travail, et vous verrez que ça va nous aider à construire aussi une réponse par rapport à comment partager le message maintenant. Cette vision du travail donnée par la Bible influence notre manière de vivre en tant que chrétien. En réponse, je vais donner 5 exhortations, 5 pistes aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'aller vers quelque chose qui est plus pratique. Quelque chose qui est plus pratique, mais je tiens tout de suite à préciser que ce ne sont pas des recettes à appliquer telles quelles. Ok, alors, faut faire ça, ça, ça et ça. Voilà, là je suis un bon chrétien, j'ai entendu les 5 exhortations du jour. C'est pas des astuces à appliquer. Il faut que ces encouragements-là, il faut qu'ils soient enracinés par des convictions profondes de base. Peut-être que vous n'avez pas ces convictions profondes aujourd'hui. Une des convictions de base, c'est déjà, est-ce que le fait d'avoir Jésus dans votre vie est comme un trésor pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui a de la valeur? Est-ce que vous êtes convaincu du fait que Dieu veut se faire connaître à tous les hommes? Et des convictions de base qui sont enracinées dans la Bible. On ne pourra pas justement revenir sur tout ça. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous qualifie comme un de ses représentants? On vient de lire un texte. Mais je ne peux pas aborder tout ça. Donc là, je vais être plus sur des sujets pratiques, mais pas des recettes à appliquer. Donc, comme je dis, une des convictions fondamentales, c'est est-ce que Jésus dans ma vie, c'est comme un trésor? Est-ce que la grâce de Dieu, cet amour que je ne mérite pas, a vraiment transformé ma vie? Si tel est le cas, ça me donne un moteur, une raison valable de vouloir le communiquer à d'autres. J'ai expérimenté un amour tellement fort de Dieu, j'aimerais le faire connaître, c'est un trésor, j'aimerais le partager. C'est comme quelqu'un qui a trouvé un bon restaurant et dit « Ouais, j'ai une super adresse, là, le couscous marocain à l'angle, là, un peu plus loin dans le pré, il est super, il est top ». Voilà, je te conseille, quelqu'un vous demande une adresse et vous allez là-bas. Quelque chose qui vous tient à cœur, vous l'avez vécu, vous voyez? Si c'est juste un truc qui est, voilà, comme une mission qu'on vous a confiée. Voilà, vous êtes téléprospecteur pour vendre un produit dont vous n'êtes absolument pas convaincu, vous ne l'avez jamais essayé, mais vous êtes là toute la journée à décrocher votre téléphone pour essayer de convaincre des gens d'acheter le produit. Bon, c'est pas du tout ce dont il est question ici. Est-ce que Jésus a vraiment transformé notre vie à partir de là, quand on en parle, c'est quelque chose de vrai. Quand il y a le téléprospecteur qui essaie de vous vendre le truc, vous sentez que c'est comme si vous êtes vegan et vous êtes en train de faire la promotion d'une bonne côte de bœuf à Rungis. Ah, la viande est savoureuse, etc. etc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est vegan. Rien à voir. Alors, quelques pistes ce matin. Et commencer avec un bon point de départ qu'on a parcouru ensemble dans cette série sur le travail. Déjà, chrétien, faites du bon travail. Faites du bon travail, c'est le premier point dans le contexte professionnel. On a lu ces versets-là ensemble. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur, comme si c'est pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est tiré de la deuxième lettre de Paul aux chrétiens à Colosse. Un autre texte de sa plume, il parle plus spécifiquement aux esclaves, mais on pourrait transposer assez facilement ceci dans le contexte de la condition de salarié aujourd'hui, d'employé. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Vous voyez le lien que Paul fait ici? Si vous faites bien votre travail, si vous honorez ceux qui vous ont confié ce mandat, ceux pour qui vous travaillez, si vous êtes exempt de toute fraude, si vous vous abstenez de faire toutes les magouilles que vos collègues font pour passer des trucs en notes de frais comme ça, pour gratter quand vous faites le comptage de votre temps, s'il y a des choses où vous n'entrez pas par égard pour Dieu, si vous êtes digne d'une entière confiance, quand vous vous engagez sur un truc, votre boss sait que vous allez le faire, ou si vous n'allez pas le faire, vous allez lui dire, vous allez donner un délai, si vous démarquez comme ça, alors là, vous gagnez un crédit en fait. Vous gagnez un crédit et peut-être que vous pourrez rendre attrayant, comme dit Paul, cet enseignement. On va dire, ok, ça a un impact en fait, ces convictions ont un impact. Je le vois, il y a un truc qui est différent. Alors peut-être vous allez vous prendre des bâtons dans les roues parce que justement vous ne collez pas aux pratiques des autres et donc vous voulez par ricochet, vous les remettez en question. C'est probable. Mais voilà, être digne de confiance, ça donne une certaine légitimité aussi pour pouvoir parler de la foi. Un travail d'excellence, de qualité, réalisé avec droiture. Vous voyez, le respecter ses collègues, respecter sa hiérarchie, respecter les plus humbles dans la hiérarchie aussi. La femme de ménage qui vient dans les bureaux, personne ne calcule, vous discutez avec elle, vous considérez le travail, peut-être il y a quelque chose de différent à vivre. Mais j'aimerais dire tout de suite, vous n'êtes pas le seul à bien travailler, vous n'êtes pas le seul à bien travailler, chrétien. Deuxièmement, vos collègues ne vont pas forcément vous poser des questions en réaction. Vous voyez, il y a aussi ce verset de Paul qui dit « Si l'on vous demande de rendre compte de votre espérance, de votre foi, soyez prêt à y répondre en toutes circonstances. » Mais peut-être que les gens vous demandent jamais de répondre de votre espérance. Les gens ne vous posent pas des questions sur la foi. Peut-être certains sont indifférents, c'est possible. Certains ne sont pas indifférents, je le mentionne aussi. Alors, à l'inverse d'un bon travail, un travail médiocre, par contre, vous disqualifie pas mal. Une mauvaise attitude au travail peut aussi vous disqualifier. Il y a quelques temps, les évangéliques de France ont fait un sondage auprès de centaines de chrétiens pour un peu appréhender comment ça se passait pour eux au travail. Et dans cette question de témoignage au travail, de représenter Jésus au travail, certains ont dit, je cite, il y a une personne qui a répondu au sondage qui dit « Malheureusement, j'ai un mauvais témoignage à cause de mes absences et de mes retards. » Donc là, il a conscience qu'en fait, il se grille un petit peu toute crédibilité pour ensuite aller parler des choses spirituelles. Alors, travaillez bien, ok, mais vous et moi, nous ne sommes pas parfaits, d'accord? Et c'est aussi une occasion parfois de prendre la parole et de témoigner de quelque chose de différent. Nous ne sommes pas parfaits, nous chrétiens ne sommes pas parfaits, mais parfois c'est une occasion de témoigner. Je cite le cas de Pierre, qui est un manager, qui, dans le cadre de son travail, se retrouve avec son équipe à perdre un appel d'offres très important, et du coup, il est vraiment impacté par ça, il enrage, et il engueule son équipe. Vous n'avez pas atteint les objectifs, on a été mauvais, tout le monde fait profil bas, parce que là, on a pas assuré, quoi. Et il y va un peu fort, les gens se sentent un peu bousculés. Et ayant vécu cette réunion-là, il prend un peu de recul et il se dit « j'ai mal agi ». Et la réunion d'équipe qui suit, la semaine d'après, il vient voir ses collègues et il dit « écoutez, je vous demande pardon parce que mon attitude n'était pas adéquate. J'ai pas tenu compte du travail qui a été fourni également pour répondre à cet appel d'offres et je dois assumer aussi ma part de responsabilité ». Et ben, je peux vous dire que ce genre d'attitude, il marque. Cet homme-là, chrétien, il n'est pas parfait. Mais il y a quelque chose qui, dans sa vie, fait que, lorsqu'il sait qu'il a mal agi, il y a un petit warning dans sa tête que Dieu lui donne de dire « Waouh, c'est pas très bon ça, faut que tu corriges ça. » Aujourd'hui, qui va demander pardon? Qui va demander pardon aujourd'hui? Dans les vies de couple, dans les relations avec la famille, avec vos voisins, qui vient demander pardon? Pas grand monde, franchement pas grand monde. Alors être chrétien et faire du bon travail, ok, mais ça veut pas dire que on est soumis à un devoir de perfection. Par contre, on est encouragé par la Bible à vivre certaines choses, notamment d'aller voir ceux qu'on a offensés. C'est un exemple. Donc tout ça pour aussi contrebalancer cette idée de bon travail. Ouais, on est appelé à un bon travail. Clairement le cas. Première piste. Deuxième piste, apprenez à mettre le sujet sur la table. Alors, là, juste un point de contexte, il y a des domaines professionnels où la question de la parole religieuse est encadrée par la loi. Si vous travaillez notamment dans le secteur public, vous êtes soumis aux règles de la laïcité. Par exemple, dans le contexte de l'éducation nationale, admettez que vous soyez professeur ou personnel administratif, si vous êtes en lien, par exemple, avec des enfants, vous ne pouvez pas librement décider de vouloir parler de Jésus aux gens et de... Là, je peux vous dire, vous allez tout de suite sortir du cadre de la laïcité. Donc, il y a des règles, en fait, qui existent, et je vous invite à vous référer, d'ailleurs, à un petit livre des éditions BLF qui dit... parler de sa foi au travail. Il y en a sur l'étagère dans la salle du fond. Vous pouvez l'emprunter et le rapporter ensuite. Mais dedans, vous avez vraiment des précisions. Donc là, je cite l'éducation nationale, mais ça peut être dans le cadre de la santé, par exemple. J'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont médecins généralistes. Ils ont aussi une forme de devoir de réserve. Alors, il faut aussi beaucoup de précautions, hein. Mais mon beau-frère peut pas prescrire « je vous invite à lire la Bible », etc. Donc il vit son identité chrétienne, il lui arrive de prier pour des patients qui vivent des choses difficiles, avec son épouse il prie, voilà, il prie pas là dans le cabinet avec le patient. Donc faut juste rappeler un peu le contexte et voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Il y a beaucoup de choses possibles. Si vous parlez avec un collègue à la machine à café, vous avez le droit de parler spiritualité. Ça fait partie de votre vie, on est dans un pays libre qui nous permet d'avoir une liberté de conscience, de croyance. Tout dépend de la démarche que vous adoptez. Est-ce que vous êtes dans un dialogue, dans le respect, ou est-ce que vous êtes en train de lui mettre un coup de pression? Je caricature un petit peu. Vous voyez, en fait. Mais il y a une grande liberté, vous restez avec un collègue. C'est peut-être souvent plus facile d'aborder le sujet de la foi, peut-être dans un 1-1, avec un collègue, vous avez l'occasion de manger, à la cantine ou en dehors, vous allez boire un coup après le boulot, et peut-être là vous allez parler de votre vie, vous abordez le sujet de la foi, c'est possible. Ce deuxième encouragement, c'est apprendre à mettre le sujet sur la table. Apprendre à assumer son identité chrétienne, normale, naturelle. Je suis chrétien. Je donne un exemple qui m'est arrivé dans le cadre de mes fonctions professionnelles précédentes. J'étais auditeur comptable à une époque de ma vie. Et donc, on avait régulièrement des missions à accomplir, on partait en déplacement. Bon, bah, ça m'est arrivé, parfois dans le train, il est 8h du matin, on est à Gare de Lyon, je suis avec Alexis, mon collègue, et puis, bah, moi, je sors ma Bible dans le train, parce que j'ai l'habitude de prendre un moment pour lire ma Bible, c'est tout, parfois un peu la course. En général, dans le train, quand on va en mission comme ça, on n'est pas tout de suite la tête dans le guidon sur la mission. On sort pas les ordi dans le train. Chacun fait un peu son truc, certains vont dormir ou quoi. Bon, là, je vais en mission avec Alexis. On va dans le nord de la France pour auditer une entreprise qui fait de la gestion des déchets, je sais plus quoi. Voilà, je sors ma Bible, je commence à lire le texte que je voulais lire du moment. Voilà, Alexis me pose des questions et on discute. C'est devenu un ami, je l'ai vu régulièrement, des fois il est venu à des événements, il m'a invité à son mariage, etc. Juste, c'est normal. C'est normal, c'est mon quotidien, j'ai pas de honte à avoir. Personne ne me questionne. Si un collègue vous dit, bah, qu'est-ce que t'as fait dimanche? Ouais, il y a un beau soleil, qu'est-ce que t'as fait dimanche? Bah, vous pouvez lui dire, bah, après l'église, je suis allé faire un pique-nique. Donc, vous avez mis après l'église. Ah ouais. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en général. Assumez. Vous êtes en semaine et quelqu'un vous invite à un after-work, au lieu de dire, je suis pas dispo, je dis non, bah, le mercredi, en fait, j'ai l'habitude d'étudier la Bible avec d'autres chrétiens dans l'église. Voilà, faut être détendu. Il n'y a pas de raison de se cacher ou d'avoir peur. Et puis après, de pouvoir témoigner assez simplement de ce que Dieu a pu vous apporter dans votre vie. Dans le contexte professionnel, par exemple, quelquefois, il arrive d'être mis au placard. Vous savez, vous êtes dans le viseur de la direction. On veut plus de vous. On vous met au placard. Ben, peut-être vous avez vécu quelque chose avec Dieu en étant mis au placard dans un moment de votre carrière et vous pouvez, à un moment donné, quand il y a un collègue qui vit mal ce genre de situation, dire bah, tu sais, moi aussi j'ai connu une mise au placard et Dieu m'a beaucoup aidé dans ce moment-là parce que c'était dur. J'étais mis de côté, on m'a retiré mes responsabilités, j'étais plus convié aux réunions, etc. On m'a mis un pseudo-poste là où en fait j'avais rien à faire. Dieu m'a beaucoup aidé. Ah, c'est tout. Vous avez juste dit, Dieu m'a beaucoup aidé. Vous n'avez pas raconté votre life. Vous n'avez pas sorti la Bible sur le bureau. Juste naturel. Ça fait partie de ma vie. Mettre le sujet sur la table, ça peut être aussi dans des occasions spéciales de la vie professionnelle. C'est à titre d'exemple, mais moi, quand il m'est arrivé de quitter plusieurs entreprises, dans une des entreprises où j'étais, c'était un cabinet à taille humaine, comme on dit. Une dizaine de collaborateurs, bah, j'ai décidé au moment où j'allais partir de faire un cadeau personnalisé à chacun. Par exemple, j'avais un collègue qui était fan de métal, c'était beaucoup de métal, et en fait, pour moi, c'était une occasion de leur dire vraiment, j'aimerais que vous sachiez que Dieu, c'est super important. Je sais pas trop comment vous dire, j'ai fait un cadeau. Ce collègue-là, je lui ai offert ce bouquin. Ce bouquin, c'est celui écrit par un ancien guitariste du groupe Korn, groupe de métal. Et donc cet homme-là a vécu vraiment dans cet univers avec beaucoup beaucoup d'excès, de drogue, de plein de choses. Voilà, une existence bien déglinguée comme pas mal d'artistes. Et à un moment donné, vraiment Dieu a été sa bouée de secours, quoi. Donc plus tard, il a écrit un bouquin et il continue d'ailleurs à faire sa musique. Il a écrit d'autres paroles certainement dans les albums qu'il a composés après en solo. Et je me demande même s'il n'est pas revenu dans le groupe.
C'est le groupe Korn.
Encore. Ouais. Voilà. Donc j'avais un collègue, il était fan de métal. J'ai dit tiens, je vais lui offrir ça. Voilà. C'était pour moi une occasion spéciale. Je quittais l'entreprise. Je voulais dire aux gens, réfléchissez au sujet de la foi. Je dis pas que c'est un modèle ou quoi, mais c'est ce qui m'a semblé bon sur le moment. Et puis gardez en tête quand vous voulez parler de la foi, de simplement avoir une ambition assez raisonnable. Il y a beaucoup de gens qui sont loin de tous ces sujets-là, qui connaissent pas très bien Jésus, pas très bien la Bible. Essayez simplement de les faire avancer un petit peu. De les faire avancer un petit peu vers Dieu. Vous voyez? Il y a besoin de que chacun fasse un chemin. Souvent, ça prend beaucoup de temps pour décrypter des choses et débloquer des malentendus. Peut-être essayer d'avoir une ambition, de faire avancer un petit peu quelqu'un sur le plan spirituel. Troisièmement, intéressez-vous vraiment à vos collègues. Intéressez-vous vraiment à vos collègues. Et là, à nouveau, je dis ça part de conviction profonde. Est-ce que vous êtes convaincu du fait que Dieu vous donne d'avoir le travail que vous avez aujourd'hui, d'être dans cette entreprise, dans ce lieu, avec ses collègues. C'est une conviction profonde qui est enracinée dans le fait que Dieu est souverain sur toute chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard comme ça qui tombe de nulle part, mais que chaque chose que je vis, en fait, Dieu n'y est pas pour rien. Donc, quand vous êtes avec vos collègues, sachez que Dieu a voulu que vous soyez là avec vos collègues. Donc, réfléchissez à ce que Dieu peut-être désire que vous apportiez à vos collègues. Soyez proche d'eux, peut-être dans des moments d'épreuve, dans des expériences existentielles. On avait discuté il y a quelques mois d'un collègue de Gary qui avait sa femme qui était atteinte d'un cancer et qui est finalement décédée. Comment je peux être présent peut-être parce que voilà, Dieu me donne cette compassion de me dire voilà, j'aimerais faire quelque chose pour lui. Des amitiés peuvent naître comme ça dans le contexte professionnel. C'est pas toujours facile de nouer des amitiés dans le contexte professionnel, mais c'est possible. Et si tel est le cas, ça donne un terreau favorable pour pouvoir discuter plus librement peut-être de la foi. Parce qu'il y a un contexte de confiance mutuelle, vous voyez. La personne a appris à vous connaître, elle a pu éprouver qui vous êtes, et elle vous fait confiance. Là, vous pouvez parler plus facilement. C'est plus difficile de parler avec un inconnu qui débarque dans la rue et qui vous parle de Jésus. Vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vous vous dites, là on est en train de parler de choses que beaucoup considèrent comme de la sphère de l'intime, vous voyez, c'est des convictions intimes. Je discute pas au coin de la rue avec quelqu'un que je connais pas comme ça. C'est difficile pour beaucoup de personnes. Dieu nous appelle à aimer nos collègues. Nos collègues sont pas toujours à notre goût. J'étais marqué par le fait que Naomi, dans son précédent boulot, elle avait un collègue un peu spécial, un vieux garçon, comme on dit, quelqu'un un peu en marge, un peu atypique, un peu. Et pendant le confinement, qui avait beaucoup de télétravail, elle s'arrangeait tous les jours pour l'appeler. S'arrangeait tous les jours pour faire un petit call. Ouais, comment ça va? Je sais plus son prénom. Comment ça va aujourd'hui? Et prendre des nouvelles. La plupart des collègues, je suis sûr, ils s'en fichaient éperdument. Parce que c'est le genre de collègue que c'est pas votre ami. Bah, voilà. Dieu vous a mis là, peut-être pour être quelqu'un de différent avec lui. Peut-être c'est par rapport à votre responsable qui est dur avec vous. Ça, c'est plus compliqué, ça. Parce que Jésus a déclaré « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent ». C'est un amour qui est surnaturel, que Dieu seul peut vraiment développer dans notre cœur. Mais on peut prier pour ça. Dans un autre boulot de Naomi, il y avait une relation assez tendue avec une des managers. C'était vraiment tendu. Réciproquement, Naomi, elle a eu du mal, et la manager a eu du mal avec Naomi. Un peu tendu. Naomi, elle a dit « Ok ». Je vais prier pour ça, pour que Dieu m'aide à pas... Il y a des fois, quand c'est un peu épineux, vous avez tendance à surréagir, être sur la défensive. Et elle a prié, « Seigneur, aide-moi à être plus détendu avec elle. » Et en plus de ça, on sait jamais ce que les gens y vivent. Cette collègue-là, elle était en train de perdre son mari d'un cancer. Mais voilà, Dieu peut nous aider. Dieu peut nous aider, on peut prier pour ça. Alors, aimer ses collègues, à nouveau, je dis, le fond du fond, c'est parce que ça vient d'une vie changée par la grâce de Dieu. C'est pas juste un copier-coller. Ok, Dieu me dit, aime tes collègues. C'est parce que nous avons été grandement aimés par Dieu, alors que nous ne sommes pas non plus aimables à ses yeux. Et ce message, ça s'appelle la grâce. Dieu nous aime alors que nous ne le méritons pas forcément. Et cette grâce, lorsqu'elle fait son œuvre dans notre vie, elle a des conséquences. J'avais déjà cité dans une des dernières sessions, le cas qui est rapporté par le pasteur Tim Keller, pasteur fondateur d'une église à New York, qui rapporte cette histoire de quelqu'un de son église. Dans l'entreprise de ce gars-là, il y avait une femme donc qui travaillait pour une entreprise à Manhattan, dans le quartier des affaires à New York, et à peu de temps après ses débuts, elle a commis une énorme bourde. Vraiment, elle a fait une grave erreur qui aurait dû lui coûter sa place, littéralement. Mais son propre chef, donc cet homme qui était dans l'église de Tim Keller, est allé voir son propre supérieur hiérarchique et il a pris sur lui l'entière responsabilité de ce qu'elle avait fait. C'est sa réputation à lui qui a été écornée dans l'histoire. Il a aussi perdu un peu de marge de manœuvre qu'il avait au sein de la société. Il a pris sur lui le truc, il a endossé à la place de la collègue. Stupéfaite par cette attitude, la jeune femme et d'aller le remercier. Elle lui a dit, j'ai souvent vu des chefs qui savent s'attribuer le mérite de ses collaborateurs, mais par contre, j'ai jamais vu un supérieur qui assume une erreur qu'elle ait commise. Ça, j'ai jamais vu. Elle voulait savoir pourquoi il était différent comme ça. Vous voyez cette question de rendre attrayant le message, comme disait Paul dans son texte tout à l'heure. Alors, cet homme très modeste et réservé a d'abord écarté la question. Elle voulait savoir pourquoi il avait écarté la question. Mais elle a insisté à comprendre pourquoi. Et il a fini par lui répondre, bah écoute, moi je suis chrétien, et ça veut dire notamment que Dieu m'accepte parce que Jésus-Christ a pris sur lui la responsabilité des mauvaises choses que j'ai faites. Il est mort même sur la croix pour ça. Et du coup, j'ai le désir et parfois la possibilité d'assumer les erreurs des autres. Parce que c'est ce qu'il a expérimenté. Dieu a assumé les mauvaises choses que j'ai faites, et moi, parfois, j'ai la possibilité d'assumer les erreurs des autres. Elle l'a regardé comme ça, fixement, là, pendant un long moment, et lui a dit, tu vas dans quelle église ? Et elle a commencé à aller à l'église. Ça, c'est l'exemple du cœur d'un homme qui a vraiment été façonné par la grâce de l'évangile. C'est pour ça que je disais en introduction, c'est pas des recettes à appliquer, dire, ah, intéressez vous à vos collègues, ça. Mais c'est, est-ce que nos cœurs ont été façonnés par la grâce de Dieu? Alors, on est en chemin par rapport à ça, si nous avons confié notre vie à Jésus. Mais, vous voyez le genre d'exemple que ça donne? Finalement, l'attitude de cet homme, c'est un peu une attitude d'un esprit de sacrifice, comme celui manifesté par Jésus dans l'esprit. Oui. On va avancer et terminer bientôt. Quatrième piste pratique. Servez-vous aussi du témoignage de l'Église. Qui a dit que témoigner de sa foi, c'était nécessairement une démarche strictement individuelle? Voilà, j'ai mon collègue à la machine à café, mon voisin de palier, etc. Si vous êtes chrétien, vous faites partie d'une famille spirituelle, de tous ceux qui sont aussi attachés à Jésus-Christ, qui sont devenus ses enfants. Vous faites partie de cette famille-là. Et ce témoignage rendu au monde, il passe aussi par cette famille spirituelle. Jésus, il a dit que c'est à l'amour qui régnait entre ses disciples que les gens sauraient qu'ils sont attachés à Jésus. C'est un marqueur, ça devrait être un marqueur de cette communauté chrétienne. C'est l'amour qui lie les uns envers les autres, les chrétiens. Alors la question, c'est quand est-ce que les autres voient des chrétiens ensemble? Quand est-ce que vos collègues voient des chrétiens ensemble? Peut-être ils vous connaissent, c'est le seul chrétien qu'ils connaissent dans leur environnement, c'est vous. Alors, quand est-ce qu'ils voient des chrétiens ensemble? Je pose la question. Alors, créez des moments où vous êtes ensemble. Quand vous allez regarder un match, invitez vos voisins du quartier, invitez un membre de l'église qui aime bien le foot. Quand vous décidez d'aller au resto, quand vous décidez d'aller faire, je sais pas, une sortie, un pique-nique, quoi que ce soit. Invitez des amis qui sont chrétiens, d'autres qui sont pas chrétiens. Et voilà, ils rencontrent, d'autres chrétiens, ils peuvent poser leurs questions. Ils découvrent qu'il y a d'autres personnes qui sont chrétiennes déjà. Ils n'étaient pas sûrs, ou ils ne les voient jamais, ils sont enfermés derrière leurs quatre murs le dimanche. Et puis ensuite, l'Église aussi est avec vous pour vous équiper, vous voyez, au fil des semaines. Et j'essaye aussi, d'une certaine manière, d'apporter un petit peu des réponses parfois aux questions que les uns les autres peuvent se poser. L'Église est là pour nous équiper, de savoir mais comment on vit en chrétien dans la semaine, en dehors de dimanche de 10h30 à midi. Voilà. L'Église vous aide à faire connaître l'Évangile. Il y a, par exemple, des célébrations plus spéciales, comme je vous ai dit, qui peut-être vont répondre à des besoins particuliers. Comme je vous disais, les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que ça change d'être chrétien. Voilà. C'est aussi une des raisons pour laquelle on organise la célébration Café Croissant, c'est que il y a quelqu'un qui va raconter quelque chose de son vécu. Et voilà, c'est une manière par laquelle l'Église se rend partenaire, vous aide. Peut-être, comme j'ai dit dans l'introduction, certains se sentent pas trop équipés, pas trop à l'aise pour répondre à des questions difficiles. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire que vous ne savez pas répondre à la question. Les chrétiens ne savent pas répondre à tout. Dernière piste, et je ne vais pas la développer, c'est la prière. La prière. Parce que là, une fois qu'on a dit tout ça, globalement, est-ce que Dieu va faire un petit travail dans le cœur de votre collègue, de votre ami, de votre voisin, de ce membre de votre famille qui ne partage pas la foi? C'est un travail spirituel que Dieu fait. C'est pas des arguments ou des discussions ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui le fait. Vous voyez, c'est encore une conviction profonde qui anime cette réflexion-là. C'est que Dieu, aujourd'hui, veut appeler des hommes et des femmes à venir à lui, à le trouver et à avoir leur vie renouvelée, transformée, réconciliée avec Dieu. Dieu veut le faire, c'est sa volonté. Alors priez que Dieu permette à ceux qui vous entourent de faire leur bout de chemin pour le trouver. Parce que ultimement, c'est lui qui fait ça. Bien sûr, il nous utilise. Dès le 1er siècle, Dieu a utilisé des petits bonhommes à pied. Hein. Ils n'avaient pas tous les moyens d'aujourd'hui. Ils ont vécu parmi les autres d'une manière qui était un petit peu différente. Ils avaient des habitudes. Certains avaient des sarcasmes. Oh, ils se réunissent le dimanche pour adorer un homme qui s'appelle Jésus comme un dieu. Ils chantent des chants, etc. Quand il y avait des épisodes qui frappaient la société, par exemple la peste, ah bah les chrétiens venaient en aide aux gens qui étaient malades. Ah ok, c'est un peu différent. Tiens, les chrétiens ne faisaient pas comme les autres, ils ne permettaient pas qu'on laisse des enfants mourir. La pratique à l'époque, il n'y avait pas l'avortement, qu'est-ce qu'on faisait pour se débarrasser d'un bébé? On le laissait dehors. Voilà, on le laissait dehors, on le laissait dans un coin, surtout les filles, hein. Il y avait aussi des infanticides par rapport aux filles, on voulait plutôt un, comme ça a pu l'être encore de nos jours. Les chrétiens ne faisaient pas ça. Eux, n'abortez pas, ne laissez pas leurs enfants exposés. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est un exemple de conduite distinctive. Mais c'était là, dans la vie normale, en fait, que les gens ont du coup appris à connaître, mais qui c'était ce Jésus au centre de cette communauté chrétienne? Jésus dit lui-même, personne ne peut venir à moi si le Père, si Dieu le Père ne l'attire. Personne ne peut venir à moi s'il n'y a pas une œuvre de Dieu. D'où la prière, demander à Dieu. Et peut-être même que vous dites, moi j'aimerais bien connaître Dieu, mais pour l'instant ça m'a pas touché, bah priez que Dieu vous attire. Tout simplement, priez Dieu. Permets-moi de comprendre, de saisir, de me toucher peut-être par rapport à un message qui parle de Jésus, parce que c'est Dieu qui attire. Donc, je vais pas revenir sur le fait que tout ce qu'on a dit ici, c'est vraiment enraciné dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas une liste de recettes à suivre. Je vais conclure en disant ceci, et en lisant un extrait d'un livre qui développe le sujet. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux chrétiens. Vivons en chrétien 24 heures sur 24. Ne segmentons pas nos vies. À ma vie spirituelle, bah, ok, il y a un moment particulier peut-être dans la semaine où vous vous réunissez avec d'autres chrétiens, c'est le dimanche matin. Mais ça se résume pas à ça, votre identité chrétienne ou votre vie chrétienne. Vous êtes chrétien 24 heures sur 24. Vivons des vies qui ne sont pas segmentées. Et voici ce que je vous lis dans l'extrait d'un livre qui s'appelle Vivre en chrétien aujourd'hui. C'est un pavé comme ça, mais très utile. Et il y a un chapitre sur le travail. Vivre en chrétien aujourd'hui. On parle de qu'est-ce que ça change de vivre en chrétien. Et je cite le livre. Nous avons tout à gagner à considérer notre existence dans son unité. Nous avons plusieurs lieux de vie. Nous vivons des moments différents au fil de la semaine et de l'année, mais nous n'avons qu'une vie. Dieu nous donne des dons pour qu'on les exerce dans l'Église autant que hors de l'Église. La manière dont Jésus nous enseigne à vivre concerne aussi bien notre vie de famille, notre vie d'Église, nos relations de voisinage, que notre vie professionnelle. Dans tous ces domaines, nous sommes actifs, nous travaillons d'une manière particulière, nous sommes dans un esprit de service et de générosité, d'attention aux autres, de recherche de la justice. Et tout ça, ça concerne pleinement le royaume de Dieu, quelle que soit la sphère où on a vécu ça. Nous ne sommes pas chrétiens hors de l'Église aussi simplement lorsque nous témoignons en parole de nos convictions les plus profondes. Nous sommes chrétiens à chaque instant de notre existence et cela nous conduit à faire des choix particuliers, à nous comporter d'une manière spécifique sans nous conformer au monde actuel, comme dit la Bible par la bouche de l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome. L'Église est certainement un lieu particulier où nous avons l'occasion de vivre plus facilement une réciprocité dans l'attention à l'autre, mais pour le reste, notre manière de nous positionner dans les tensions et les conflits, nos motivations pour agir, notre respect de l'autre, égal, inférieur, supérieur dans la hiérarchie. Notre interrogation sur ce à quoi Dieu nous appelle ou notre prière pour les situations difficiles doivent être les mêmes dans notre travail rémunéré ou dans notre travail non rémunéré, dans notre activité hors de l'Église et dans notre activité au sein de l'Église. Je termine la citation. Vivons une existence unifiée. Segmentons pas nos vies. Ne laissons pas Dieu à la porte de l'Église le dimanche matin. À dimanche prochain, Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide à percevoir les implications de l'Évangile, de la grâce dans tout ce que nous vivons, à réussir à connecter la foi et la pratique, la foi et notre vie au quotidien. Et pour ça, on a besoin de vraiment de l'assistance de Dieu pour y parvenir mieux demain que nous ne le faisons aujourd'hui.